Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale élections législatives. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Ladislas Vergne, qui est le candidat LR sur cette première circonscription d'Eure-et-Loir. Alors quelques mots, je vous situe. Vous êtes donc né à Paris, si je ne m'abuse. Vous avez grandi à Chartres avant d'intégrer Sciences Po puis l'ENA. C'est vraiment un de ces parcours classiques qui ont façonné la vie politique française pendant des décennies. Vous êtes donc aujourd'hui candidat LR. Vous êtes candidat LR contre, entre autres, Karine Dorange, votre ancienne collègue de la mairie de Chartres, deux candidats pour une droite qui s'est littéralement crachée à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas mission impossible ?
Bonjour. Je me permets de revenir aussi sur la notion de parcours classique. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait vraiment de parcours classique en politique. Je crois que la politique, ça se mérite, ça se gagne. C'est pas une question d'études, c'est une question d'engagement du terrain. Moi, je suis engagé sur le terrain depuis maintenant des années. Je suis élu local. Et pour moi, c'est ça le titre de mérite qui font que je m'engage, je continue ce parcours politique.
Mais ça n'a rien de dégradant de sortir de Sciences Po et de l'ENA,
bien sûr,
dans ma bouche.
Ce bagage m'a permis de comprendre et d'avoir le service public ancré chez moi. Le parcours politique, pour moi, c'est une autre chose et c'est l'engagement pour les Chartrains, qui s'est matérialisé par mon élection en 2020 sur la liste du maire de Chartres. Ouais. Pour vous répondre sur la droite, moi je suis aujourd'hui investi par les Républicains pour défendre le programme de la droite et du centre dans cette élection législative. L'enjeu est très simple. On a trois options réelles, principales, qui se détachent. On a réélire le député actuel pour recréer ce qu'on a eu en 2017, à savoir un Parlement fantôme, en réalité, qui votait avec obéissance les moindres décisions du président de la République. On a une deuxième option qui est totalement opposée, qui est voter pour un député apparenté, voter pour un candidat apparenté au mélenchonisme, qui a un programme révolutionnaire, qui a un programme qui consiste à renverser la table sans rien de proposer de vraiment concret ni d'ancré. Et puis, ce que je cherche à incarner, moi, c'est la troisième voie, c'est la voie de la droite. La voie de la droite des territoires, la voie de la droite des réformes.
Alors, vous menez une campagne de terrain depuis déjà quelques semaines en essayant de n'oublier personne. Je le vois sur Facebook, hein, vous allez vraiment partout. Qu'est-ce que vous disent les gens? Quelles sont leurs attentes aujourd'hui?
Moi, je suis effectivement le seul candidat dans cette campagne à aller partout. Je vais dans toutes les communes tenir des réunions et je n'ai pas peur du porte-à-porte de cet exercice physique qui consiste vraiment à écouter les gens et à matérialiser cela dans des recommandations et dans un programme qui est le plus ancré possible. Il y a une extrême inquiétude des gens aujourd'hui dans ce pays. La France n'a jamais, à mon sens, été aussi fracturée. Et ça se sent. Il y a la France des gens heureux, la France qui ne va pas bien. Il y a la France des retraités, la France des jeunes. Depuis 5 ans, j'ai le sentiment qu'on cherche à opposer les groupes entre eux. Tout l'enjeu pour moi de cette campagne législative, c'est incarner justement reconstituer le lien social, reconstituer l'utilité collective, avec très concrètement des attentes, je pense au pouvoir d'achat. Il y a un énorme sujet aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, un énorme sujet lié au prix excessif du carburant, lié au prix de l'énergie qui s'envole. Tout le monde me parle de cela. Tout le monde me parle également des problèmes de santé sur ce territoire. On est un désert médical départemental. Oui. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que rien n'a été fait. C'est qu'il y a un énorme travail aujourd'hui en partant des besoins des gens et en partant non pas d'un programme national, mais des besoins en termes de pouvoir d'achat et en termes de santé, en termes de services publics aussi.
Quelles seraient vos propositions, justement, tiens, pour l'offre médicale? Comment on peut attirer de nouveaux médecins dans les zones rurales? On est un département, malgré tout, assez rural.
Pour moi, un député se bat sans relâche sur cette question médicale. Sans relâche, avec deux propositions très claires. Un, on change la loi pour amener les internes en médecine en troisième année sur le territoire, pour faire des médecins juniors qui seraient déployés directement sur le terrain, dans les campagnes, là où il y a un besoin. Deuxième chose, on élargit massivement la possibilité donnée aux infirmières de renouveler les ordonnances et de ainsi soulager les médecins dans leur pratique quotidienne. Et puis aussi, un député, donc, il vote la loi, il peut faire ces deux choses-là. Un député aussi, il s'engage au quotidien, il va à Paris dans les ministères, il toque aux portes pour faire avancer les dossiers en Eure-et-Loire et pour faire venir des médecins en Eure-et-Loire. Il va à Orléans voir la fac de médecine qui nous a un peu oubliés sur ce sujet. Il va à Paris au ministère de la Santé revoir les paramètres, revoir les plafonds d'installation.
Oui. Je crois qu'on parle du moral des gens parce que un certain Christophe Guy a publié un bouquin très intéressant qui s'appelle « La France périphérique ». C'est aussi la France des campagnes, justement, des zones rurales dont on parle peu. On parle beaucoup des banlieues, sans doute à juste titre, mais on parle peu de la pauvreté dans les campagnes. Elle existe, le sentiment de déclassement. Vous l'avez rencontré, vous le rencontrez, ça, tous les jours.
Je suis très inquiet aujourd'hui par la rupture du pacte de confiance. Quand on va dans les campagnes, quand on va parler aux agriculteurs, quand on va parler à tous ceux qui habitent dans ces petits villages, ils se sentent oubliés par le pouvoir politique. Ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à réaccorder leur confiance à des gens qui viennent les voir. Ça, je comprends. Et mon premier message, c'est l'humilité sur ce sujet, de dire que c'est difficile aujourd'hui, dans un pays aussi fracturé que le nôtre, de réussir à incarner une offre politique qui parle aux gens, qui parle aux gens dans les campagnes. Et c'est pour ça que moi, j'y vais souvent, j'y vais longtemps, prends du temps avec mon équipe pour expliquer le programme, pour dire que ce n'est pas des paroles creuses, c'est des paroles extrêmement concrètes. On a parlé de la santé, on peut aussi parler du pouvoir d'achat. Moi, si je suis élu député en juin, la première chose que je fais concrètement, c'est ouvrir le dossier de la fiscalité du carburant. C'est faire baisser cette fiscalité du carburant lorsque les prix auront dépassé les seuils qui sont très concrètement inacceptables. C'est-à-dire, quand on a un litre d'essence à plus de 2 euros, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut agir directement en baissant la fiscalité. Il faut aussi agir avec une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Ça, ce sont des attentes très concrètes de ces gens dans les campagnes, de toutes ces personnes avec lesquelles je parle et qui me font part de leur détresse.
Ouais. Alors ce niveau de vie, ce pouvoir d'achat, il est lié aussi à l'emploi. Alors on a quand même un chômage qui a baissé ces dernières années et on a ce problème, qui n'est pas qu'aurélien d'ailleurs, d'entreprises en plein dynamisme qui voudraient ouvrir des nouvelles lignes de production mais qui ne peuvent pas. Parce que tout simplement, il n'y a pas de salariés qui frappent à leur porte, alors que les besoins sont pressants. C'est un sacré problème. C'est quoi ? C'est la formation professionnelle qui ne va pas en France ?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que effectivement, la formation et l'apprentissage sont encore en inadéquation avec les besoins réels de l'économie. Le deuxième sujet, c'est le montant encore trop faible des salaires à l'embauche. Très clairement, le salaire à l'embauche aujourd'hui sera au même niveau, voire légèrement inférieur, que le montant maximal des aides sociales qu'on peut cumuler en parallèle. Évidemment, je fais le reproche à personne de privilégier les aides sociales. Très concrètement, aujourd'hui, il n'y a aucune incitation à travailler, à être réembauché. Troisième sujet pour moi, le gouvernement actuel a créé massivement des emplois à mi-temps ou à temps partiel. Il a créé des emplois qui ne correspondent pas, encore une fois, aux besoins réels de l'économie. Moi, je suis très inquiet. J'étais avec la Fédération du bâtiment, qui me disait qu'il n'y avait plus personne en apprentissage dans leur secteur. J'étais avec des représentants de l'hôtellerie de la restauration, qui me passaient le même message. Je fais le tour de tous les secteurs, de tous les acteurs de l'économie. Le message partout est pareil. Et le message, il est très clair. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relais pour exprimer cette détresse à Paris. Il n'y en a pas. Donc il faut absolument que le député serve à quelque chose. Et pour moi, c'est une façon de servir que d'écouter et de relayer ses préoccupations.
Rassurez-nous, les Français ont quand même envie de travailler, je suppose.
Les Français ont envie de travailler, mais les Français ont envie d'être rémunérés à une juste valeur pour leur engagement. Moi, je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Et c'est ça, et c'est un des nombreux chantiers qu'il va falloir ouvrir très rapidement. Pour moi, un député, avec mon positionnement, je ne serai pas dans cette grande majorité qu'il y aura. Pour être très clair, et moi je veux que tout le monde ait cette vision très claire aujourd'hui, il y aura un grand parti, c'est-à-dire que LREM aura une majorité très nette à l'Assemblée nationale. Pour moi, un député d'opposition, ça sert justement à être un député émancipé. C'est-à-dire, loin de l'opposition systématique, ça sert à incarner, en fait, des propositions de bon sens qui vont pouvoir passer, qui vont pouvoir être soumises au ministre et au président de la République. C'est quelque chose, on est beaucoup plus libre en fait dans l'opposition que dans un groupe majoritaire qui enferme en plus les parlementaires dans une obéissance servile en fait au président de la République.
Alors aujourd'hui, on a le sentiment que LR est diffusé entre, c'est sans doute ce que veut faire croire aussi le gouvernement, entre les Macron compatibles et les Zemmoureux compatibles. Franchement, sur un plan idéologique, qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement? Par exemple, vous êtes pratiquement de la même génération de Guillaume Kasbarian. Est-ce que vous avez un regard différent sur l'avenir du pays, la place de l'homme dans la société, peut-être aussi des questions aussi fondamentales?
J'aime bien, lorsqu'on me parle des divisions supposées chez LR, alors que d'une part, extrêmement peu de parlementaires LR sont passés chez les macronistes aujourd'hui. On le voit, c'est-à-dire qu'il y a un échec total de l'initiative des macronistes de débauchage. Deuxième chose, je demande aussi à voir la cohérence idéologique d'un parti qui va de Marisol Touraine à Éric Woerth, qui va d'un partisan de l'orthodoxie budgétaire, qui est Éric Woerth, à une ancienne ministre socialiste du gouvernement Hollande. Vous me posez la question de la différence que j'ai avec Guillaume Kasbarian. Moi, je vous dirais qu'on n'a pas du tout la même approche au territoire. Moi, je suis élu local. J'ai cette approche intrinsèque au territoire. Je suis enfant du pays. C'est ce que vous avez rappelé. J'ai grandi ici. J'ai envie de faire avancer ce territoire. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes différences. Et je ne veux pas attaquer le député actuel. Ce n'est pas mon sujet. C'est plutôt de dire que ma campagne, elle est sous le signe, un, de faire avancer l'Eure-et-Loire, faire avancer ce territoire en matière de santé, en matière d'infrastructure, en matière d'Internet, en matière aussi de la rénovation du patrimoine en Eure-et-Loire. On a besoin d'un député qui s'investisse sur ce territoire. Moi, je n'ai pas vu ça sur les 5 dernières années. La deuxième grande différence pour moi, c'est un constat global. Je pense que les députés En Marche aujourd'hui défendent la France qui va bien. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est défendre toutes les Frances, toutes les fractures de notre population, de notre société.
Ouais. Votre homme politique de référence, est-ce que c'est encore le général de Gaulle? Dans votre génération, j'en entends parler pratiquement jamais. Est-ce que, par exemple, il fait partie des gens qui vous inspirent?
Bien sûr que le général de Gaulle m'inspire. Moi, je vais vous prendre peut-être un exemple un tout petit peu plus récent, c'est celui de Philippe Séguin. C'est lui qui m'a incité à entrer en politique, qui m'a un peu guidé. Moi, j'étais encore assez jeune lorsqu'il est mort. J'étais profondément bouleversé par sa mort parce que c'est un grand serviteur de l'État et c'est quelqu'un qui incarnait parfaitement la vision du gaullisme social.
Le gaullisme social.
Bien entendu. Oui. Bien entendu.
Merci beaucoup, Ladislas Vergne. Et puis, demain, nous pourrons évoquer les élections législatives avec le candidat du Rassemblement national. Merci.
Merci à vous. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When
your face.